IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France en Val d'Oise, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Ressources précieuses mais de plus en plus fragiles face au changement climatique, à la pression démographique et à la crainte d'une pénurie mondiale. Aujourd'hui, mardi 4 novembre 2025, l'économie en direct va plonger, sans mauvais jeu de mots, au cœur d'un sujet essentiel à notre avenir, l'eau. L'enjeu n'est plus de préserver l'eau, mais bien de la transformer, la réutiliser et surtout ne pas la gaspiller. C'est tout l'enjeu des premières rencontres techno. L'orthographe TECHN'EAU, organisée le 19 novembre prochain à la Maison internationale de la recherche de Neuville, en partenariat avec CY Transfer. Une après-midi dédiée à l'innovation, aux rencontres professionnelles et aux collaborations entre acteurs académiques et industriels. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Jacques Pinget, consultant en stratégie, fondateur et dirigeant du cabinet Impact B. Bonjour Jacques.
Bonjour Jacqueline.
Jacques Momeux, fondateur de France Industrie Assainissement. Bonjour Jacques.
Bonjour Jacqueline.
Et Alfadio Olori Togbe, président du parc de Saint-Ouen-l'Aumône et cofondateur de Capital Industrie. Bonjour Alfadio.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour messieurs et merci d'être avec nous dans les studios d'IDFM Radio. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie en direct. Une émission à retrouver dans son intégralité en podcast sur idfm98.fr.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Avant de vous donner la parole, et parce que nous sommes le premier mardi du mois, préparez vos tabliers et vos papilles pour notre chronique culinaire en compagnie de Marine Roland. Aujourd'hui, la recette du parmentier de canard aux patates douces. Bonjour Marine.
Bonjour et bienvenue dans Mimi dans ta cuisine. En novembre, les soirées se rallongent et l'envie de plats généreux revient doucement. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette qui réconforte rien qu'à l'odeur, un parmentier de canard aux patates douces. C'est un classique revisité avec une touche de douceur, un plat familial, mais avec un petit twist qui change tout. La patate douce apporte une texture fondante et une saveur légèrement sucrée qui contraste à merveille avec le canard confit. Pour la recette, il vous faut 500 g de patate douce, 2 cuisses de canard confites, une gousse d'ail, un peu de thym, sel, poivre et une noisette de beurre. On commence par cuire les patates douces à l'eau, puis on les écrase en purée avec le beurre, sel et poivre. À côté, on effiloche les cuisses de canard, c'est hyper facile une fois qu'elles sont chaudes, et on les fait revenir dans une poêle avec de l'ail émincé et une pincée de thym. On monte le parmentier, une couche de canard au fond, une couche de purée par-dessus, et on saupoudre d'un peu de chapelure pour le croustillant et on enfourne à 180 degrés pour 15 minutes. C'est fondant, parfumé, ça sent bon dans toute la maison et c'est le genre de plat qui fait plaisir à tout le monde, même un mercredi soir. Et si vous testez cette recette, je serai ravie de voir votre version. Envoyez-moi une photo sur mes réseaux sociaux Mimi Cuisine, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve le mois prochain dans Mimi dans ta cuisine avec une nouvelle recette de saison.
Merci Marine, on se retrouve en décembre pour une nouvelle recette.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
C'est l'économie en direct, un numéro consacré aux premières rencontres techno du 19 novembre. Et pour en savoir plus, donc, j'accueille Jacques Pinget, consultant en stratégie, fondateur et dirigeant du cabinet Impact B. Donc, Jacques, quelques mots peut-être pour vous présenter à nos auditrices et auditeurs.
Oui,
sur vous-même.
Oui, merci Jacqueline. Moi, je suis consultant, comme vous l'avez dit, en stratégie, en effet. Simplement, je viens de cet environnement, qui est l'environnement académique, au cours dans lequel j'ai réalisé un certain nombre d'actions. Par exemple, la création de la fondation pour l'innovation de l'Université de technologie de Compiègne.
Oui.
Et juste après cela, j'ai dirigé pendant à peu près 6 ans ce qu'on appelle une SAT, une société d'accélération du transfert de technologie. Ce sont des institutions qui permettent de trouver des exploitants des technologies qui sont inventées dans le monde universitaire. Alors j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir.
Oui.
En tout cas, aujourd'hui, j'ai fondé mon cabinet pour accompagner ces dirigeants du monde académique dans leur développement, et notamment autour du pôle, des pôles universitaires d'innovation, les fameux PUI. Ce sont ces pôles universitaires d'innovation, et celui en particulier de Cergy, l'université de Cergy, qui lance ce club de partenaires industriels qu'on a baptisé Techno.
C'est ça, parce que j'ai l'habitude de recevoir régulièrement l'université de Cergy et CY Transfer à propos de ce PUI. On comprend qu'il y a un vrai delta entre le langage du monde académique et du monde industriel. Et l'important, c'est d'arriver à créer des passerelles entre ces deux mondes.
Oui, tout à fait. Ce sont des passerelles qui sont extrêmement vertueuses. Pour le dire dans le langage des économistes, la croissance au XXIe siècle passe par l'économie de la connaissance. Et la connaissance, en particulier la connaissance scientifique, issue du monde académique, permet évidemment des innovations, permet des inventions, permet surtout du progrès. Je pense qu'il faut insister sur ce mot qui est le progrès, parce qu'on a coutume de dire que les gens n'attendent pas de l'innovation. Ils sont avant tout friands de progrès. Hein. Et je pense qu'il est encore important de parler aujourd'hui de progrès humain ou de progrès sociétal ou de progrès environnemental. Et ce progrès peut venir de toutes parts, bien sûr, pas uniquement du monde universitaire. Mais en particulier, ces pôles universitaires d'innovation se proposent de contribuer à leur manière à ce développement de progrès.
Alors donc vous accompagnez, on l'a compris, de nombreuses structures hein, dans leur stratégie et leur adaptation face aux défis environnementaux. Aujourd'hui, on parle de l'eau, qui est un véritable enjeu. Hein. J'avais eu l'occasion d'accueillir Jacques Momeux il y a 3 ans, et je me souviens, Jacques, que vous aviez Jacques Momeux, puisque vous êtes tous les deux, vous avez le même prénom. Je me souviens que vous aviez presque lancé un cri d'alarme, hein, Jacques, sur cette pénurie d'eau.
Oui, tout à fait, et c'est encore le cas aujourd'hui. On sait que 80% des eaux usées sont rejetées dans la nature sans traitement. Donc, à l'inverse, c'est-à-dire qu'on adresse aujourd'hui 1,7 milliard ou 2 milliards d'humains dans le traitement des eaux, avec des réponses industrielles ou scientifiques à la question, et qu'en définitive, le reste de la planète, humainement parlant, en souffre. Donc, et nous d'ailleurs, dans nos régions dites industrialisées ou nos pays industrialisés, on avance sur ces sujets-là parce que la pénurie aussi se fait sentir. Et il y a une criticité de l'eau, il y a des stress hydriques, on le voit bien pendant les périodes estivales. Hein,
oui.
Même nos agriculteurs en souffrent, donc voilà.
Oui,
donc, ce qui était vrai il y a 3 ans, c'est toujours vrai
toujours
aujourd'hui.
Vrai, peut-être même une alerte complémentaire aujourd'hui.
Tout à fait, puisque tout est lié de toute façon à la démographie, donc l'humanité croît, donc son besoin croît avec.
Ouais. Merci Jacques Momeux pour cette précision. Alors Jacques Pinget, aujourd'hui on parle donc de l'eau. Comment le secteur de l'eau peut-il mieux Enfin, en tout cas, peut-être pas comment, mais est-ce que le secteur de l'eau peut-il mieux anticiper les effets du changement climatique ?
Alors, ce qui est intéressant dans le domaine de l'eau, si vous voulez, c'est que vous avez, j'irais, deux catégories de progrès ou deux catégories d'innovation. Vous avez un premier axe qui consiste à dire il existe encore des possibilités de créer des innovations sur l'existant. Je dirais, en langage d'innovateur, on appelle ça les innovations incrémentales. Et puis, vous avez d'autres innovations qui sont plus de rupture. Sur les innovations incrémentales, aujourd'hui, on peut dire que, par exemple, dans le domaine de l'assainissement, nous sommes concentrés sur un flux qui consiste à traiter des macromolécules, qui sont essentiellement des molécules carbonées, des molécules phosphatées ou des molécules azotées. Donc on élimine phosphore, carbone et nitrate, azote. Évidemment, aujourd'hui, on s'aperçoit avec non seulement le changement climatique, comme vous le disiez, mais également des facteurs environnementaux qui sont des facteurs de pollution, qu'il faut aller sur les micro-polluants. Donc on passe du macro au micro. Et donc là, la réglementation, notamment la réglementation européenne, invite l'ensemble des acteurs, et en particulier les acteurs de l'assainissement, à passer justement, enfin pas passer parce qu'il faudrait pas éliminer le macro, arrêter d'éliminer le macro bien sûr, mais faire du macro et aussi du micro. Mm-hmm. Alors quand on parle des micros, de quoi on parle ? On parle des micropolluants pharmaceutiques, des micropolluants cosmétiques et autres. Tout le monde a entendu parler des microplastiques, par exemple, voyez. Donc ça, ce sont des enjeux qui nécessitent évidemment des décisions réglementaires, des actions des acteurs de la filière comme les stations d'assainissement, et qui nécessitent aussi de la science. On revient au pôle universitaire d'innovation. C'est-à-dire comment on fait pour identifier concrètement le micropolluant qu'on cherche à éliminer. L'identifier, c'est déjà une première étape. Et ensuite, une fois qu'on l'a identifié, comment on fait pour l'éliminer, ou en tout cas le retenir et le retraiter ensuite. Mm-hmm. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Et puis, vous avez, ce que je disais tout à l'heure, un deuxième axe qui se relèverait plutôt des innovations un peu plus de rupture. Je reste sur le sujet de l'assainissement. L'assainissement, aujourd'hui, ne se contente plus de faire de l'élimination linéaire, mais va aussi sur de la production de biogaz. C'est-à-dire qu'on a des stations qui contribuent, à leur manière, à produire de l'énergie, soit électrique, par cogénération, soit de l'énergie qui sert à du chauffage, c'est-à-dire des biogaz. Contribuent également, par exemple, à produire, grâce à leur boue, du compostage pour l'agriculture. Vous voyez, donc on est dans ce qu'on appelle l'économie circulaire.
Oui.
Donc c'est une contribution qui, aujourd'hui, sur ce volet-là, sur ce deuxième axe que j'évoquais, est un volet qui est plus récent. On peut dire, je parle sous contrôle de mes camarades, un peu moins d'une dizaine d'années.
Oui.
Vous voyez, c'est plutôt récent. Ce qui est intéressant, c'est que ça va évidemment devenir de plus en plus décisif sur ce deuxième axe.
Alors, en vous écoutant, je me posais la question, entre macro et micro polluants, est-ce que il y a la recherche est plus complexe pour trouver les micro polluants que les macros ?
Alors, j'ai l'impression que oui.
Oui.
En effet, par exemple, caractériser un microplastique, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Il y a différentes méthodes et toutes ne sont pas égales. Toutes ne se valent pas. Donc, évidemment, c'est plus complexe. Et puis, intuitivement, on se rend bien compte que le macro versus le micro,
c'est
un facteur 1000, ou plus même. Donc, on vient justifier, évidemment, l'apport de la science, l'apport de nouvelles technologies. Quand je dis science, d'ailleurs, il faut aussi entendre outillage, équipement, infrastructure. L'université est le lieu même aussi de plateformes technologiques qui permettent de réaliser des tests. J'aurais peut-être l'occasion, sans rentrer tout de suite dans les détails, mais ce serait intéressant qu'on passe un petit peu de temps sur ce qu'est le PUI et ses membres fondateurs.
Au sein de ces membres fondateurs. Pour cette partie haut, parce que nous, le PUI, nous en parlons régulièrement, mais je suis d'accord qu'il faut y revenir absolument.
Voilà. Parce que l'outillage en science est absolument nécessaire. Et comme vous l'avez dit, c'est intuitivement, vous l'avez fait remarquer, aller identifier et observer des micropolluants, c'est plus compliqué. Donc ça nécessite beaucoup plus de technologie et beaucoup plus d'outillage.
Est-ce pour cette raison, donc là c'est la consommatrice qui parle, est-ce pour cette raison que récemment il y a eu ces scandales avec de l'eau de l'eau alimentaire, enfin et les microplastiques. Il y a une marque, un groupe célèbre qui a été pointé du doigt.
Tout à fait. Alors, il se trouve que quand les inspecteurs venaient, on leur proposait de faire les analyses au mauvais endroit.
Donc,
ils ont été pris la main dans le sac pour cette raison. Je ne prononcerai pas sur les raisons qui poussent certains industriels à se comporter de la sorte. En tout cas, moi, ce que j'observe par le contact que j'ai directement avec les gens qui travaillent dans l'eau, au-delà de Alpha Dio et de Jacques Momeux, les membres fondateurs du club ou d'une manière générale les gens que l'on rencontre pour nous rejoindre dans ce club, on a vraiment affaire à des gens qui ont le bien commun chevillé au corps.
C'est
véritablement ça.
Le
monde de l'eau est un monde...
L'intérêt général.
Exactement, l'intérêt général. Donc je mettrai de côté, même si c'est massif, puisqu'on parle d'un grand groupe évidemment, ou deux grands groupes peut-être au pluriel, je mettrai de côté ces comportements déviants pour vraiment souligner au passage qu'on a la plupart du temps des acteurs qui pensent avant tout au bien commun.
Qui sont vertueux. Oui, non, je me disais surtout que c'était peut-être cet accroissement probablement de recherche vers les micropolluants qui ont dû mettre à jour ce scandale, en fait. Peut-être que ça existe depuis plus longtemps qu'on ne le pensait et que ça a été... Oui, c'est ça. Oui. Merci infiniment. Avant d'enchaîner sur plus de questions, je vous propose d'écouter Bouquet final, un titre de Vanessa Paradis.
Chose, comme une overdose, mais c'est le bouquet final. Mais c'est le bouquet final. J'avoue, je les ai attendus longtemps, mais les fleurs ne parlent qu'au présent. Les regrets n'aiment pas. Tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Sur la carte qui c'est l'encre bleue, me dis que tu n'aimes que moi. Le rouge et le rouge sang. Couleur des amants, mais c'est le bouquet final, final. Fatal, c'est toujours bien de finir en beauté. Y'a le nom à perdre, ruban satiné. Sans vouloir jeter des fleurs, y'a mes sentiments dont j'aime t'aimer. Et mon envie de te serrer, serrer. Tout y est, mais plus le cœur. T'aimerais changer les choses, comme on change l'eau. Sur les roses que t'as déposées chez moi, chez moi, chez moi. C'est toujours bien de finir en beauté. Tu ne fais pas les choses à moitié. Sans vouloir jeter des fleurs, y'a comme une envie de te pardonner. De me faire pour toi belle à crever. Tout y est mais plus le cœur.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Merci d'être à notre écoute jusqu'à 11h. Ce matin, nous parlons de l'événement Techno en partenariat avec CY Transfer et toujours avec à mes côtés Jacques Pinget, consultant en stratégie, fondateur et dirigeant du cabinet Impact B. Jacques Momeux, président fondateur France Industrie Assainissement. Alpha Dio Olori Togbe, président du parc de Saint-Ouen-l'Aumône, cofondateur de Capital Industrie. Jacques Pinget, vous êtes proposé de nous parler un peu plus longuement du PUI, donc je vous laisse le faire.
Oui, merci Jacqueline. Les PUI, donc Pôle Universitaire d'Innovation, il y a beaucoup d'acronymes, comme dans tous les métiers, donc je vais m'efforcer de dire Pôle Universitaire d'Innovation, parce que les mots sont importants. On aurait pu appeler ça, pôle universitaire de progrès territorial. Parce que je voudrais insister sur, je l'ai déjà fait, sur progrès. je le redis, hein, les gens n'aspirent pas à l'innovation, les gens aspirent au progrès. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. À un moment où les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, je crois que plus de la moitié... c'est un tout petit peu plus que la moitié des Français aujourd'hui estiment que le progrès de leurs conditions pourrait venir de la science et de la technologie. Mmh. Ça veut dire que vous avez globalement la moitié, l'autre moitié, qui considère que la science et la techno n'apportent pas du progrès.
Ah oui.
Alors évidemment, il suffit d'écouter la radio le matin, hein, pour entendre que l'intelligence artificielle générative va détruire des emplois. Mais c'est pas du progrès, ça, hein, vous voyez bien. Ou pour le dire encore autrement, quand l'électricité est advenue, quand le moteur à explosion est advenu, ça, ce sont véritablement des inventions, des innovations qui ont généré du progrès, notamment qui ont généré des millions d'emplois.
D'accord.
Alors qu'aujourd'hui, on parle d'innovation et on entend plutôt destruction d'emplois. Donc, c'est pas facile de s'y retrouver. Alors, je reviens à Pôle universitaire d'innovation. Et je disais progrès territorial parce qu'il y a vraiment des notions qui sont importantes pour nous. La première, c'est que c'est territorial, donc c'est à l'échelle du Val d'Oise, mais au-delà du Val d'Oise, des universités et des acteurs autour de l'université de Cergy. Et on a également l'université Sorbonne-Paris-Nord.
Oui.
On a bien entendu la société Impeccable à ma droite, la société Aquaefia représentée ce matin. On a également le CEREMA.
Ah oui.
Le CEREMA.
Oui, c'est un partenaire de à l'origine. Hein,
oui, tout à fait, qui est fondateur du PUI. Le CEREMA, pour le dire très vite, c'est l'acteur de référence de l'adaptation au changement climatique pour les collectivités territoriales et pour l'État. Donc dans adaptation au changement climatique, le mot important c'est adaptation. Et le CEREMA c'est vraiment cet acteur de référence. Ces membres fondateurs se regroupent en considérant que ils peuvent apporter donc leur brique à cette innovation et à ce progrès. Un point important sur lequel on insiste, c'est que quand on va parler de monde universitaire, on entend souvent recherche fondamentale. Mmh. Ce n'est pas uniquement de la recherche fondamentale, c'est également de la recherche technologique et c'est également la possibilité de, y compris, aller chercher des savoirs empiriques. Dans le domaine de l'eau, par exemple, les savoirs empiriques sont légion. Vous vous souvenez peut-être, pour sortir du territoire du Val d'Oise, mais vous souvenez qu'il y a quelques mois, il y a eu des inondations, et d'énormes pluies dans le nord de la France. Et les gens du coin disaient, il y a une époque où on savait gérer ces inondations, ces phénomènes, avec ce qu'on appelle les wateringues, c'était le drainage des wateringues. Et aujourd'hui, on ne sait plus le faire. Pour un certain nombre de raisons, où on le fait moins, parce que des acteurs institutionnels se sont emparés de ça, parce qu'on a bétonné, parce qu'on a imperméabilisé les sols.
Ouais. Et donc, on a donné des permis de construire qui n'étaient pas forcément
La réglementation
adéquats.
Aussi joue son rôle. La réglementation, là, pour le coup, elle n'est pas tout le temps vertueuse. Hein. Mmh. Elle était vertueuse, je l'ai évoqué tout à l'heure, par rapport à la réglementation sur l'eau potable. Là, pour le coup... vous avez un passage qui est celui où vous aviez des gens du coin qui étaient capables de gérer.
C'est ça, il y avait une expérience empirique, comme vous le dites. Oui.
Voilà. Ouais. Donc nous, on est très attachés à ça, et la notion territoriale, c'est aussi ça. Le CEREMA nous dit, par exemple, qu'ils font de l'innovation, ils ont trouvé cette expression que je trouve tout à fait adaptée, c'est de l'innovation adaptative ou prototypale.
Oui.
Pas uniquement de l'innovation de rupture, vous voyez, de l'innovation qui manipule des intégrales triples, pour le dire de façon un peu astucieuse. Voilà, donc le pôle universitaire d'innovation, c'est tout ça. Ce sont des membres fondateurs, c'est une approche de la recherche qui est aussi très pragmatique, y compris avec des savoirs empiriques ou avec de l'innovation prototypale et adaptative. Et ce pôle universitaire d'innovation se propose de créer un certain nombre de dispositifs qu'on appelle des clubs de partenaires industriels, dont le premier est celui sur l'eau.
Très bien, très bien. Donc peut-être un mot sur avant de bon, j'aime bien un petit peu donner la parole complètement à un invité et puis ensuite aux autres, mais peut-être un mot sur ce club Jacques et Alpha Dio. Donc Alpha comment Dio, a-t-il donc...
Oui, bien volontiers. Alpha Dio. D'abord merci de cette invitation. Donc le Club O, c'est effectivement une initiative qui est partagée par des acteurs engagés dans la direction de la protection de cette ressource eau. En fait, très souvent dans l'esprit du consommateur et j'irais même dans l'esprit des politiques, on ne trouve pas suffisamment la conscience de la rareté de cette ressource qu'on estime en fait de manière inconsciente extrêmement abondante, puisque chaque fois qu'on ouvre le robinet chez nous, et ben l'eau coule.
Oui, c'est ça.
Et donc du coup, de manière collectivement, nous n'avons pas conscience de la rareté, et donc autant le consommateur que le politique, qui sont les deux décideurs en réalité, ne sont pas suffisamment conscients. Et de ce fait, ne mettent pas une pression suffisante sur les véritables acteurs de la pollution de l'environnement, qui sont les industriels. Parce que on dit le consommateur pollue, mais le consommateur ne pollue qu'avec les instruments qu'on met à sa disposition. Mmh. Et donc, si on lui fournit des produits dans lesquels il y a des microplastiques, bah, il va y avoir des microplastiques dans l'environnement. Si on lui fournit des produits dans lesquels il y en a pas, eh ben, il y aura pas de microplastique dans l'environnement. Donc il y a un effort qui doit être fait par cette collectivité de prise de conscience de la rareté, et donc le fait que des acteurs industriels comme nous se réunissent dans un club comme le Club O marque ce début d'effort en direction de la protection de l'environnement. J'ai envie de dire que en réalité beaucoup d'industriels, si ce n'est tous les industriels, parce que les industriels sont aussi des gens qui vivent sur la même planète et qui sont donc exposés aux mêmes risques que les consommateurs. En revanche, il y a beaucoup de notions d'économie qui vont autour, et c'est très souvent, hélas, ces notions d'économie qui triomphent. Ouais. Dans le poids des décisions.
Enfin, politiquement, vous voulez dire plus.
Absolument.
Oui.
Et mais aussi dans l'esprit des industriels, oui. Dans les états-majors, dans les COMEX, dans les groupements d'actionnaires. Très souvent, l'économie porte le pas sur, j'ai presque envie de dire, le bon sens. Et donc, cette notion de l'urgence là, et de la rareté de la ressource, si elle était davantage partagée, ferait que les efforts de recherche, les efforts d'innovation porteraient plus sur des points qui vont permettre à l'industrie de pouvoir progresser tout en ayant sans être ralenti par le phénomène économique. Dans le cas d'Impeccable, par exemple, la société que je dirige également, nous serons capables d'ici 2026 de recycler à 100% les eaux de process.
On y reviendra. Merci beaucoup, Alpha Dio. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'avec toutes les campagnes qui sont faites aujourd'hui sur le changement climatique, le fait de vouloir préserver la planète, beaucoup de consommateurs ont quand même cette conscience de préserver l'eau?
Absolument.
Il y a des statistiques qui existent par rapport aux industriels où on a le sentiment que c'est pas tout le monde n'a pas les mêmes les mêmes objectifs.
Alors de manière spontanément on se rend compte assez générale que l'environnement est devenu une préoccupation majeure, autant pour les consommateurs que pour les industriels eux-mêmes, et que pour les acteurs politiques, enfin tous les gens qui constituent les à la fois les décideurs et les acteurs. En revanche, ce qui est très clair, c'est que ça ne va pas suffisamment vite. Voilà, et c'est le point essentiel, c'est que ça ne va pas suffisamment vite. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure en disant que on a conscience de l'urgence. Enfin, je veux dire, vous appuyez pas sur la pédale de frein de la même façon quand le mur vous semble à 10 km que quand il vous semble à 200 mètres. Mm-hmm. Et là, clairement, on a un mur qui est à 200 mètres, mais on se comporte comme s'il était à 10
km. On continue de foncer dedans. Ouais.
Absolument. Donc, on a bien vu qu'il y a un mur. Pas de problème, tout le monde est d'accord dessus. Simplement, la notion de l'urgence n'est pas encore bien partagée.
Alors. Merci Alpha Dio. Jacques Momeux.
Pour rebondir un petit peu sur cette vision industrielle, parce que effectivement Alpha Dio, au travers de son entreprise, est un applicateur, utilisateur pour ses autres process et un applicateur de ses valeurs de réutilisation de la ressource. Moi, pour ma part, nous on est aussi constructeurs et fabricants de solutions. Donc et effectivement la ressource, nous on la revalorise dans une vision autour de 4 points finalement qui sont son cycle, à savoir la collecter, la potabiliser, la traiter et la réutiliser.
Oui,
et voir sur les sous-produits à revaloriser. Donc c'est toutes les sens en fait de l'utilisation de la ressource de demain. Et je rebondis parce que le sujet c'est quand même aussi ce club qui est techno au travers du PUI. Ce club techno, voilà, c'est l'antichambre vers la science.
Oui.
Et c'est enfin la rencontre, on va dire, de l'outil scientifique qu'on a aujourd'hui en France avec ces innovations, ces actes de progrès mis à disposition auprès des industriels de petite taille, comme moi, parce que j'ai une TPE aujourd'hui. On n'est pas que des entreprises du CAC 40. Et ce collectif de petites entreprises, de moyennes ou de grandes, elles sont réunies autour de cette valeur, c'est-à-dire protéger la ressource. Et enfin, comme nos amis américains ou nos voisins du côté de l'Atlantique entre les deux, que l'université puisse donner son savoir-faire et sa matière grise auprès des entrepreneurs qui eux sont aussi dans le concret et se battent au quotidien. Et ça, c'était pas une approche qui était, c'est une approche qui est plutôt innovante
et
très progressiste finalement.
En tout cas que nous on découvre à travers toutes les émissions qu'on a pu faire maintenant depuis plusieurs années avec CY Transfer, ce transfert justement entre le monde académique et le monde industriel qui nous paraît évident aujourd'hui. Jacques Pinget.
Oui.
Merci Jacques Maubeuf.
Oui, je vous en prie Jacques. Évident en partie, parce qu'il y a encore des progrès à faire, en effet, pour que l'évidence soit la plus partagée possible. Cette notion de transfert, ou en tout cas, moi je parle plutôt de porosité, le transfert étant une des composantes de la porosité en général. Le transfert, c'est un mot qu'on retient pour dire transfert de technologie, ce qui signifie donner des licences d'exploitation à un exploitant. Puisque dans le monde universitaire, vous avez de la génération d'invention qui donne de la propriété intellectuelle, et cette propriété intellectuelle est concédée sous forme de licence à des exploitants. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le transfert de technologie. On entend aussi beaucoup parler dans l'actualité de transfert d'une manière générale, y compris entre pays, mais je rentre pas dans le détail à ce stade. La question évidemment de l'augmentation de la porosité ou l'augmentation de la surface de contact entre le monde académique et le monde économique est absolument clé. Et j'insiste aussi sur le fait que dans le domaine de l'eau, par exemple, la question territoriale ou locale est importante. Par exemple, dans le club eau, on développe une chaire d'enseignement supérieur, une chaire d'enseignement et de recherche, pour avoir de l'eau sans chlore au robinet. Alors l'eau sans chlore au robinet, on se dit c'est formidable, ça c'est un vrai progrès, parce qu'on sait tous, le matin, notamment quand on n'a pas laissé couler l'eau au robinet,
suffisamment, oui.
On sent le chlore qui est tout de suite présent ou dans son verre. Il faut laisser couler un petit peu, ou il faut laisser son verre à l'air libre pour que le chlore s'évapore.
Dégazé,
le chlore s'évapore assez vite. Simplement, il est là. Il se trouve que dans certaines régions de France, à Grenoble par exemple, il y a déjà de l'eau sans chlore. Il y a des inventions, des innovations qui sont du registre de l'eau sans chlore. Mais le local est important parce que c'est plus simple. Alors j'espère qu'on n'est pas écouté à Grenoble. Enfin, je vous l'espère pour vous, mais j'ai envie de dire, c'est plus simple de faire de l'eau sans chlore à Grenoble que faire de l'eau sans chlore
à
Cergy.
Par rapport à le lieu géographique, c'est près de plus.
C'est-à-dire que quand vous puisez de l'eau dans les nappes à Grenoble, en gros, vous pouvez la boire directement.
Bien sûr.
Pour faire simple. À Cergy, c'est pas tout à fait la même chose. ou en Île-de-France, c'est pas tout à fait la même chose. Faut jamais oublier qu'en Île-de-France, vous avez 50% du territoire qui sont des zones agricoles.
Oui.
50%.
C'est vrai.
Pour l'Île-de-France,
oui,
qui est un peu contre-intuitif.
Le Val d'Oise en particulier.
Et le Val d'Oise en particulier. Mmh. Le Val d'Oise a cette particularité d'avoir à la fois de la densité urbaine très importante, des zones agricoles et des zones protégées, ce qu'on appelle des parcs naturels.
Oui.
Ce qui est vraiment un écosystème tout à fait particulier, dans lequel faire de l'eau sans chlore est peut-être plus compliqué. Vous voyez, vous revenez à la question que vous posiez tout à l'heure, Jacqueline. C'est, il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres, évidemment. Donc, se pencher sur ce sujet, je reviens à la notion de surface de contact entre le monde académique et le monde économique, c'est ça. C'est-à-dire que peuvent nous apporter d'une manière générale les chercheurs pour aboutir à cette eau sans chlore à Cergy, ou dans le Val d'Oise, hein, pour parler de façon un peu plus large. Et ça, c'est exactement ce que disait tout à l'heure Jacques Momeux, c'est-à-dire faire en sorte que on crée des dispositifs, là en l'occurrence ça s'appelle une chaire, qui sont un véritable partage entre les producteurs et distributeurs de l'eau potable et le monde scientifique. C'est un exemple des initiatives lancées par le Globo.
Alors vous parlez aussi de gouvernance et de coopération. Est-ce que c'est dans le même état d'esprit que ce que vous venez de nous dire ?
Oui, même si on met au centre du dispositif le monde universitaire, il ne s'agit pas de dire qu'il y a un acteur qui est plus pilote que l'autre. C'est-à-dire que la gouvernance est véritablement partagée. Avec les acteurs industriels qui sont présentés ici par Jacques Momeux et Alpha Dio. Nous avons également le CIARP, le syndicat d'assainissement de la région pontoise, donc qui traite une grande partie des eaux usées de l'ouest parisien, avec une très grande station à Neuville. Du côté, donc c'est à l'embouchure de l'Oise, hein, l'Oise-Seine, 400 000 équivalents habitants, hein, je pense, sous contrôle de mes camarades. Donc ça veut dire qu'on est déjà sur une grosse station d'assainissement. Donc le CIARP fait partie aussi de cette gouvernance. J'ai parlé des acteurs académiques comme Sorbonne, Paris Nord et Cergy, et bien entendu le CEREMA. Cette gouvernance, elle est partagée au sein d'un comité de pilotage. Les membres fondateurs de ce club techno ont voix au chapitre pour déterminer tout simplement quels sont les projets qu'on va soutenir, pour déterminer tout simplement quels sont les prochains adhérents du club O qui vont nous rejoindre pour prospecter avec nous. Voyez, donc on est vraiment dans une gouvernance partagée qui est à la fois institutionnelle, académique et économique. Il ne s'agit pas de dire vous avez du développement économique qui est logé au sein des collectivités territoriales que sont par exemple les mairies ou autres conseils départementaux. Et ce développement économique, il est piloté uniquement par quelques acteurs. Et puis nous, on va faire notre développement économique à nous, c'est-à-dire le développement économique qui serait piloté exclusivement par l'université. Non, on veut véritablement...
Oui, vous voulez une vraie synergie.
Une vraie synergie, notamment.
Entre les uns
on parle de synergie institutionnelle.
Bien sûr. Merci Jacques Pinget. Je propose une nouvelle pause. Cette fois, je propose que nous écoutions Pascal Obispo, Millésime. Et on se retrouve juste après pour continuer cet échange passionnant.
Sur les coteaux en pente, les vallons amoureux, un rayon de soleil est passé sur nous deux. J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe. Et je vois mon château sortir du cœur des vignes. Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça, être père. Après autant d'amour, la saison des vendanges, récolte le fruit. Le meilleur des mélanges. La bouche est ronde et pleine. Et le nez si discret. Quel prénom allait-on bien pouvoir te donner? Tu es mon millésime, ma plus belle année. Pour ce bonheur en prime que tu m'as donné, je suis à jamais ta terre. C'est ça, être père.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct et aujourd'hui nous parlons de l'enjeu des premières rencontres techno, TECHN'EAU, organisées le 19 novembre prochain à la Maison internationale de la recherche de Neuville en partenariat avec CY Transfer. Et pour en parler, j'accueille Jacques Pinget, consultant en stratégie, fondateur et dirigeant du cabinet Impact B. Jacques Momeux, président fondateur de France Industrie Assainissement, Alphadio Olori Togbé, président du parc de Saint-Ouen-l'Aumône, cofondateur de Capital Industrie, mais également fondateur de Impeccable, hein, puisque Absolument. Vous allez nous en parler, Alphadio, tout à l'heure. Donc, pendant cette pause, on a échangé un petit peu tous les quatre. On a bien compris qu'il y avait urgence, hein, toujours dans cette préservation de l'eau. Jacques Pinget, vous, dans vos compétences, vous faites le suivi des startups, des fondateurs de startups innovantes. Est-ce que c'est un PUI tel qu'il est défini aujourd'hui, est vraiment un facteur d'émergence de start-up innovantes?
Oui, tout à fait. Quand on parle de start-up, dans le monde universitaire, on va parler de spin-off. La distinction entre start-up et spin-off est très simple. Hein. La spin-off, c'est l'émergence à partir d'un laboratoire, d'une entreprise créée sur la base d'une technologie innovante issue du laboratoire. Il y a des startups qui sont créées tous les jours et qui ne sont pas forcément issues d'un laboratoire. Donc là, on va parler de spin-off universitaire. Et donc le PUI, le Pôle Universitaire d'Innovation, il a pour mission de développer, hein, de faire en sorte que de plus en plus de spin-off universitaires sortent des laboratoires, des universités, notamment de l'Université de Cergy, l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Alors, piloté par qui, ces startups, ces spin-off innovantes? Par des étudiants, généralement, hein, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est une des missions, hein, du monde universitaire, de développer l'entrepreneuriat. Alors, ça peut être des étudiants qui sont des doctorants, hein, qui, au cours de leur thèse, s'appuient sur leurs travaux de recherche pour développer une spin-off universitaire. Ça peut être des masters, ça peut être des associations entre ces étudiants avec des chercheurs qui sont quelquefois leurs directeurs de thèse, vous voyez, des choses comme ça. J'en profite pour rendre hommage, hein, au monde universitaire et aux professeurs d'université qui sont des gens... qui malheureusement sont souvent un peu méprisés, en France en particulier. Je tiens à leur rendre hommage.
Oui, pas reconnus à leur juste valeur.
Non, absolument pas, y compris financièrement. En France, on le sait bien, c'est un environnement qui n'est pas forcément très doté et qui ne paye pas bien ces chercheurs. On parle souvent d'ailleurs de fuite des cerveaux, hein, parce qu'on est mieux payé aux États-Unis qu'en France. Je glisse au passage cet hommage pour... moi qui les côtoie au quotidien, dire que ce sont des gens qui sont à la fois investis dans leur recherche, dans leur enseignement, dans leur tutelle de laboratoire, qui sont
des passionnés souvent.
Absolument des passionnés, bien sûr, bien sûr, et qui s'investissent également dans la logique institutionnelle et qui font des voyages pour des partenariats internationaux entre leur université et l'université de l'autre côté de la planète. Bon, voilà, je ferme cette parenthèse,
je tenais à le dire.
Et revenons sur les startups ou les spin-offs, donc sur l'entrepreneuriat. C'est un point important. Ça me permet aussi peut-être de faire le lien entre ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la notion d'urgence et finalement la jeunesse, puisque les étudiants sont par définition des gens jeunes et qui sont certainement préoccupés de l'avenir de la planète. Je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Alfadio avec la métaphore du mur. On pense que le mur est... On se comporte plutôt comme
on
si...
On s'imagine qu'il reculait, qu'il est sans cesse en train de reculer.
Oui, voilà. C'est, peut-être que vous ajoutez une dimension, Jacqueline, puisque Alfadio nous disait le mur est à 10 km. Enfin, on croit qu'il est à 10 km alors qu'il est à 200 mètres. Mais vous avez raison, peut-être qu'on... non seulement on pense qu'il est à 10 km, mais en plus on pense qu'il recule et que les 10 km sont constants, alors que nous, on bouge. J'ai souvent aussi cette image de la ressource en eau que sur la planète consiste à dire vous imaginez la Terre, la planète Terre comme une grosse boule de billard. Et on dit souvent c'est ce qui nous trompe un petit peu en termes de disponibilité de la ressource, puisqu'on dit 70% de la surface de la Terre est recouverte par l'eau, mais évidemment c'est de l'eau salée. Donc, on a cette image de 70% de la surface de la Terre, c'est pour ça qu'on appelle la planète Terre la planète bleue, ça veut dire que c'est illimité. Mais en revanche, si vous prenez cette eau de la Terre et que vous en faites une sphère, là, vous passez d'une grosse boule de bouillard à une bille pour les enfants. Vous voyez la différence de taille. Donc, une grosse boule de billard au départ, vous prenez toute l'eau de la planète, y compris l'eau salée, vous avez une bille, c'est un bigarreau, on appelle ça quand on joue aux billes et qu'on est enfant. Mais c'est pas fini. C'est-à-dire que si vous enlevez cette eau salée, l'eau des mers, et que vous prenez uniquement l'eau potable, là, vous avez une petite tête d'épingle.
Ouais.
Voilà, ça, c'est l'eau l'eau douce. Mais ce n'est pas terminé. À partir de cette eau tête d'épingle, si vous pensez exclusivement à l'eau douce qui est disponible, c'est-à-dire en surface ou dans les nappes phréatiques, parce qu'il y a de l'eau douce qui n'est pas disponible, là, vous arrivez à un grain de sable. Donc vous êtes parti en fait d'une boule de billard et vous arrivez à un grain de sable qui représente l'eau douce disponible sur Terre. Donc ça, c'est une autre métaphore que celle d'Alfadio sur la distance du mur.
Qui est très parlante,
Voilà, qui est également très parlante en termes de disponibilité de l'eau. Et je parle de ça parce que je pense que cette préoccupation, elle est évidemment chez nous tous. Et quand je reviens à votre question sur les startups ou sur les spin-offs, quand on est étudiant et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a avant tout quelque chose qui relève au-delà du développement économique, d'une préoccupation. Moi qui côtoie évidemment le monde universitaire tous les jours, je vois bien que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi donner du sens à sa vie et donner du sens tout simplement à l'avenir de la planète.
Oui. Merci infiniment pour toute cette précision. Quel serait le message à faire passer d'un point de vue populaire pour justement reprendre la métaphore que vous venez de nous décrire, parce que c'est franchement inquiétant.
Oui, alors c'est inquiétant, mais en même temps il y a vraiment des raisons de se réjouir. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. La crainte ou la peur est peut-être anxiogène et donc inhibitrice. Donc il ne s'agit pas d'être inhibé face à ce que l'on perçoit
ou tout le contraire,
ce que l'on sait. au contraire, il y a vraiment des raisons de se réjouir, je le disais, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, je redis ce que je disais au début, c'est-à-dire des stations d'assainissement qui sont en train de se diversifier du point de vue de leur activité de tous les jours. C'est-à-dire des gens qui font de l'assainissement qui avant étaient centrés sur un traitement linéaire qui consistait à éliminer des macropolluants. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont capables de faire de la réutilisation des eaux usées traitées, la REUT.
Oui.
REUT, ça c'est un acronyme qu'il faut retenir. Le citoyen lambda peut ne pas connaître PUI pour l'Universitaire d'innovation. En revanche, connaître REUT, à mon avis, ça c'est quelque chose qu'il faut développer.
Il faut
tous retenir. Réutilisation des eaux usées traitées. Là, on a aussi de quoi se réjouir puisque ces stations d'assainissement sont aujourd'hui capables de réinjecter dans le milieu une eau quasi potable, j'allais dire, mais c'est pas tout à fait vrai, mais en France en tout cas, la réinjecter dans le milieu et le faire passer par des systèmes de filtration naturelle, c'est-à-dire renvoyer dans les nappes phréatiques de l'eau, des eaux usées traitées. Ce qui est une bonne nouvelle.
Oui.
Et ça ne va que croître.
Oui, c'est ça.
Ces nouvelles.
Il y a une dynamique qui est quand même en route et qui a tendance à se développer.
Voilà. Donc, ce que je souhaite dire et ce sur quoi je souhaite insister, c'est de dire qu'au fond, il existe encore des possibilités de cranter du progrès. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'eau coule au robinet spontanément et qu'on entend tous les matins que l'IA générative va détruire des emplois, que tout est foutu. Mmh. Non, il existe encore des secteurs de l'économie, des secteurs de la vie humaine qui peuvent progresser, comme par exemple ce que je viens de dire avec la réutilisation des eaux usées traitées, ou encore la production d'énergie par des stations d'assainissement, comme je le disais au début.
Merci Jacques Pinget. Est-ce que l'innovation dans la filière de l'eau pourrait être freinée par un manque de coordination ou plutôt par un manque de financement?
Quand on me pose la question du manque de financement, j'ai coutume de dire, en fait, de l'argent, il y en a. Il y en a à l'Europe, il y en a à travers des appels à projets. Dans le monde universitaire, on est assez coutumier de la notion d'appel à projet. Donc, il y a de l'argent. Il faut simplement savoir trouver les bons guichets de financement, comme on dit, hein, ou en tout cas orienter l'argent au bon endroit. Donc, je ne voudrais pas me... Alors que je viens de dire qu'il y a des raisons d'être optimiste, ce geste. On sait bien qu'on a des problèmes budgétaires, on a des problèmes d'endettement, on le sait tout ça. Simplement, à l'échelle d'un continent qui s'appelle l'Europe, on peut aussi trouver des moyens de financement. Donc, là où vous me posez la question des freins potentiels à l'innovation, moi je dirais plutôt que ce qui peut accélérer l'innovation, c'est avant tout de poser correctement les problèmes,
ouais.
Bien formuler les problèmes et les formuler ensemble. Mmh. Et c'est ça tout l'objet d'un pôle universitaire d'innovation, c'est ça tout l'objet d'un club comme Techno, c'est ne pas poser les problèmes exclusivement du point de vue académique ou scientifique, ne pas poser les problèmes uniquement d'un point de vue industriel. Mais les poser ensemble, les formuler ensemble. Un jour, j'ai assisté à une conférence, il y avait une personne qui disait « on n'a pas assez de projets ». Alors c'était quelqu'un d'un grand groupe que je ne citerai pas, hein, dans le domaine de l'eau d'ailleurs, mais je ne citerai pas, mais simplement, la réflexion m'avait surpris. On n'a pas assez de projets. Elle ne disait pas on n'a pas assez d'argent. Elle disait on n'a pas assez de projets. J'avais rebondi sur cette formule en disant, il me semble qu'à travers ces mots, c'est plutôt on n'a pas assez de projets bien formulés, c'est-à-dire bien reformulés à plusieurs, entre institutionnels, académiques, industriels, pour aller trouver la solution, soit à inventer, soit disponible sur étagère. Il faut jamais oublier que dans le monde entier, il y a des gens qui déposent des brevets
tous les jours.
Et que on peut aussi faire de l'innovation par concession de licence de solutions existantes ou par adaptation de choses déjà existantes qui ont été développées de l'autre côté de la planète, qu'on peut adapter ou localiser. Je reviens à cette notion de localisation qui est importante. Et ça existe. Donc, vous voyez, la question des moyens ou des freins, à mon sens, relève plus de quelquefois ce sentiment d'urgence qui nous fait oublier que bien poser un problème, c'est déjà commencer
c'est
à le résoudre.
Arriver à bien arrêter le projet et puis ensuite pouvoir travailler d'une façon plus effective finalement. Merci infiniment Jacques Pinget pour cette démonstration. Alors bien sûr vous pourrez intervenir à travers ce que Jacques Momeux et Alpha Dio vont nous dire tout à l'heure, mais en tout cas merci pour cet éclairage sur les enjeux stratégiques et la nécessité d'une vision partagée, puisque au fond c'est vraiment ça le but, c'est la vision partagée, je crois.
Oui, c'est une vision partagée, et d'où peut-être quelques mots sur le 19 novembre.
Oui.
Si c'est le moment.
Bien sûr.
Le 19 novembre après-midi, hein, donc je donne rendez-vous à tous ceux que ces sujets intéressent à la Maison internationale de la recherche à Neuville-sur-Oise, qui est l'un des bâtiments de l'université CY Paris-Cergy. Donc ça débute à 13h30 le 19 novembre et on réunit évidemment les acteurs de la filière et les membres fondateurs du club Techno. pour présenter l'offre du club, pour que chaque porteur de projet, en l'occurrence en particulier ici Jacques Momeu et Alpha Dio, qui présenteront leur projet, et également, évidemment, se rencontrer et voir comment, pendant ces moments de pause, ce qu'on appelle du networking, dans ce type d'événement, les porteurs de projet peuvent rencontrer d'autres acteurs de la filière, pour rencontrer les chercheurs avec qui ils souhaitent travailler, et également des étudiants, on en parlait à l'instant, les étudiants à la fois de Sorbonne Paris Nord, les étudiants de Cergy seront invités, parce que certains, aujourd'hui nous sommes mardi, et le mardi il y a des étudiants de CY Paris Cergy qui se rendent au CIARP sur des... je crois que ce sont des matinées, un certain nombre de matinées dans leur semestre d'études, pour mener l'un des projets de techno directement. D'accord. Donc, c'est aussi un point important, puisque là, on est sur des situations réelles, c'est-à-dire de l'enseignement en situation, avec des gens qui font des étudiants qui font des prélèvements dans l'Oise, qui commencent à travailler justement sur ces micropolluants.
C'est ça, on est dans une démarche pragmatique. Jacques Pinget, vous attendez combien de monde à cet événement organisé le 19 novembre ?
Alors, on a invité évidemment très très largement tout notre réseau. Je pense qu'on aura entre 50 et 70 personnes.
Très bien, très bien. Donc avec des tables rondes et puis...
Voilà. On va faire une table ronde de présentation des membres fondateurs. Et des raisons pour lesquelles ils ont rejoint le club techno. Ensuite, on fera des interventions plus individuelles des projets eux-mêmes. On interagira beaucoup avec la salle, bien sûr. Et puis, on aura des présentations d'expertise particulière. Le CEREMA, par exemple, qui est membre fondateur à la fois du PUI et du club techno, présentera certaines de ses expertises. Je cite, par exemple, l'expertise du CEREMA en termes de désimperméabilisation des sols. C'est un sujet, ça, la désimperméabilisation. On a aujourd'hui des solutions qui permettent à partir du constat qu'on a fait qu'on avait trop imperméabilisé certains lieux, on a aujourd'hui des techniques qui permettent de désimperméabiliser. Voilà, donc ça va être une présentation du CEREMA, ça.
Très bien. Merci infiniment. Merci Jacques Pinget pour votre expertise. Donc, on marque une nouvelle pause et cette fois, on va écouter Passy et Calogero face à la mer.
On ne choisit ni son origine, ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Naître les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Être en treillis de conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, MICRO. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
Tous deux la même balle et tous deux déçus.
Je prends mon dernier rêve.
La sécheresse sur une terre où on ne cesse de semer. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, y'a l'état profond et l'état à côté. L'état pas un euro ou la tape à l'arracher. Y'a l'état, les RMistes, l'état qu'a taffé. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air patibulaire.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
Tout et tout deux déçus.
Je prends mon dernier rêve.
Face à la mer, c'est toi qui résistes.
C'est toi qui résistes.
Face contre terre, ton nom sur la liste. De tout ton être, si t'es à comparaître.
IDFM 98 FM.
Vous êtes toujours à l'écoute d'IDFM Radio et nous poursuivons ce matin l'émission dédiée à l'événement techno qui aura lieu le 19 novembre à partir de 13h30 à Neuville, où des tables rondes et des échanges intéressants vont avoir lieu. Pour en parler, j'accueille Jacques Pinget, Jacques Momeux et Alpha Dio Olori Togbé. Jacques Momeux, donc je l'ai déjà dit, vous nous étions rencontrés il y a 3 ans où vous nous aviez alerté hein, sur cette pénurie d'eau dont on espère qu'elle n'arrivera pas, bien évidemment. Vous, depuis 3 ans, comment avez-vous évolué dans votre entreprise, Jacques ?
Au niveau de l'entreprise, enfin. Moi, j'ai pas changé. Hein. Il y a toujours la même urgence, il y a pas de souci.
C'est toujours aussi beau.
je suis toujours à la tête de l'entreprise. Néanmoins, effectivement, c'est un petit peu dans notre approche finalement qu'on a changé les choses, notamment pas qu'en France, aussi à l'étranger, où on réunit cette volonté de se rapprocher des populations, même les plus éloignées, parce que la ressource en eau est pas forcément accessible à tout le monde. Donc l'idée étant de collecter, potabiliser, traiter, réutiliser et revaloriser les sous-produits. Donc Jacques Pinget tout à l'heure l'a cité, effectivement on peut méthaniser, faire de l'énergie, faire du biocompost. Donc c'est revalorisable dans l'agriculture. Et ça, on n'est pas obligé d'attendre les grands projets ou les grands financements. On peut le faire aussi à l'échelle du village, oui. D'un quartier, d'un éco-quartier, que ce soit en France ou ailleurs. Et se remettre un petit peu la ressource au centre de l'enjeu. Et c'est surtout changer les dogmes sur l'idée qu'effectivement, une station de traitement d'eau, peu importe qu'elle soit pour faire de l'eau potable ou de l'eau usée, c'est pas forcément un centre de coût. C'est aussi générateur d'emplois, de services liés à cette ressource, et que c'est certainement. Il faut arrêter d'être dans l'esprit de pénaliser ou de en disant vous devez être éco-responsable. Moi, nous voyons plus les choses dans l'idée de mettre en place des solutions où l'utilisateur sera aussi un éco-participant. Et sera effectivement récompensé de cette participation à un périmètre oui. Qui sera à définir. Et c'est ça aujourd'hui, je pense, qui sont des axes de progrès. On parle beaucoup de RSE. Nous, ça s'inscrit là-dedans, dans cet esprit-là, parce qu'il faut du sociétal, il faut de l'environnemental, et puis il faut être responsable, ou alors, du moins, participant, plutôt que responsable. Voilà.
Oui, donc vous êtes, votre entreprise, hein, France Industrie Assainissement, c'est un acteur incontournable du traitement et de la transformation des eaux usées. Oui. Est-ce que, où en est la France, justement, aujourd'hui, dans la réutilisation des eaux?
Alors moi, j'étais intervenu, effectivement, sur un événement il y a déjà 2 ans. On en parlait, d'ailleurs, à la radio, chez oui, vous, oui. Jacqueline, il y a 3 ans. Aujourd'hui, la réutilisation des eaux usées, les décrets avancent, mais on est à moins d'1% des... ou peut-être 1%, ça a dû, je l'espère, changer de taux de réutilisation des eaux industrielles ou domestiques traitées et réutilisées. Quand on voit qu'on est entre 14 ou 16% en Espagne, plus de 86% en Israël.
On est en retard par rapport aux autres pays européens.
Voilà. Le gouvernement actuel, on est en retard et le gouvernement actuel a donné pour objectif d'avoir 10% de réutilisation des eaux d'ici à 2030. Bon. C'est un peu utopique, on va pas se le cacher, parce que des sociétés comme Alpha Dio ou des petits industriels comme nous pouvons l'être, il en faudrait des centaines de milliers pour atteindre l'objectif. Donc oui, garder la dynamique de rester dans ce trend et de réutiliser les eaux, il faut que ce soit conservé. Mais après, il y a une réalité effectivement économique ou industrielle.
Alors, vous disiez là, hors antenne, vous nous avez dit que la France était champion du traitement de l'eau.
Oui, tout à fait.
Mais en revanche, pas de la réutilisation de l'eau. Est-ce que là, c'est pas parce qu'il y a une une contingence économique?
Alors, quand j'ai dit tout à l'heure, effectivement, en off, qu'on était les champions du monde, c'est parce que nous avons les plus grandes entreprises, aujourd'hui, qui sont au CAC 40, les plus grands groupes du traitement des eaux sont français. Donc après, il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais effectivement, on montre l'exemple dans le domaine, on a su asseoir notre expertise.
Et ces entreprises, excusez-moi, ma question est peut-être stupide, mais ces entreprises qui font le traitement de l'eau, elles ne peuvent pas aussi faire la réutilisation de l'eau?
On sait le faire depuis que le monde est monde. Depuis que l'industrie existe, oui. Déjà à partir des années 30. Après, c'est simplement plus on démocratise et plus effectivement on baisse les coûts de revient des technologies pouvant le faire. Simplement sont apparues ou ont été identifiées d'ailleurs d'autres pollutions qu'on n'avait pas identifiées il y a 60 ans ou 50 ans. Donc finalement on a des technologies qui permettent la réutilisation qui sont devenues plus abordables, mais par contre le niveau de jeu pour traiter ces nouvelles pollutions identifiées sont plus importantes. Donc il y a un rééquilibrage qui se fait. Voilà, en tout cas, plus on avance, plus on découvre, et plus il faut augmenter les niveaux de traitement pour avoir une eau acceptable.
Mais j'en profite pour dire que elles le font. On doit être fiers aussi d'avoir Suez et Veolia, sont les deux grands groupes dont on parle ici. Elles le font, mais à l'étranger et dans des zones de stress hydrique très très prononcées. Donc elles savent faire. Donc je dirais que pourquoi c'est pas fait à la même hauteur en France, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a plutôt une abondance d'eau encore.
Ah oui.
Ça dépend des régions.
Oui, on n'est pas encore...
L'abondance d'eau du côté de la Méditerranée n'est pas tout à fait la même que l'abondance d'eau dans le Val-d'Oise, bien sûr, ou en Île-de-France en général. Mais encore, voilà, on a cette notion de sentiment d'abondance, on va dire, en France. Et la deuxième raison, c'est la réglementation. La réglementation en France ou en Europe n'est pas la même que... Par exemple, au Chili, vous avez beaucoup de réutilisation d'eau traitée au Chili, pour ne pas parler d'Israël, qui est un cas un peu limite, puisque eux, ils sont à plus de 80%. Mais vous voyez, le Chili, on n'y pense pas forcément, mais il y a de la réut, pour parler en acronyme, acronyme à retenir cette fois-ci, au Chili, et opérée par des entreprises françaises.
Ça veut dire que Suez et Veolia... voit le mur qui recule aussi, comme nous, comme le lambda.
Au Chili, non, on va dire.
En France.
En France, voilà, exactement, en France, vous avez raison.
Mais c'est un bon exemple, pardon, si je peux me permettre.
Oui, Alpha Dio.
C'est un très bon exemple. L'exemple du Chili est un très bon exemple parce que très souvent, on pense à Israël et pareil, dans l'inconscient collectif, Israël est un pays riche et donc elle a les moyens de se payer une eau à 90% recyclée. Mais le Chili, dans le même inconscient collectif, n'est pas perçu comme un pays très riche. Mais ce qui montre bien que finalement, ce qui change le comportement des gens finalement, c'est cette notion d'urgence, c'est la perception de l'urgence. Quand les gens ont compris que c'est important et que le mur il est à 200 mètres, eh ben ils appuient sur les freins, et qu'ils soient riches ou pas riches. Et donc très clairement, la raison pour laquelle, bien que nous ayons des champions du monde du recyclage de l'eau, on ne parvient pas aujourd'hui en France à changer les comportements et à changer le mode de consommation, et c'est presque essentiellement réglementaire.
Oui,
aujourd'hui, on a une réglementation qui non seulement n'incite pas à l'utilisation d'eau recyclée, mais pire encore, la bloque.
Oui. Il y a carrément des freins dans ce cas-là. Quand vous parlez de Israël et Chili, c'est pas non plus les mêmes surfaces géographiques. Donc,
c'est pas les mêmes surfaces géographiques, mais quand on regarde la quantité d'eau et c'est pas non plus les mêmes quantités d'eau consommées par habitant, vous avez raison, mais au demeurant, les besoins vivriers de chacun sont couverts dans les mêmes proportions, et je crois que pour le Chili, on parle de 60%.
D'accord. Très bien, merci Alpha Dio. Jacques Momeux, lorsque nous étions vus il y a 3 ans, vous étiez en phase de levée de fonds. Du nouveau à ce sujet.
Ben écoutez, ça avance. On est toujours à l'écoute. On innove. Donc en fait, Alors, nous, la levée de fonds, oui, est toujours d'actualité, effectivement. Et après, pour être très clair, alors on parle du mur. Hein,
vous savez, l'argent, ce fameux mur.
L'argent est aussi un moyen d'aller très plus vite dans le mur si c'est mal maîtrisé. Donc, nous, on prend notre temps et ça nous réussit pas mal. Et on continue d'innover à travers. En interne, avec en autosuffisance, on va dire.
Très bien. Voilà. Et alors, encore une question, toujours par rapport à il y a 3 ans, mais parce que je trouve que le sujet est tellement prégnant. Il y avait vous nous aviez parlé de la COP 26, où la COP 26 avait fait de l'accès à l'eau une de ses priorités. Où en sommes-nous aujourd'hui?
La COP 26, il y a toujours cette volonté induite d'avancer, c'est bien évident. Donc aujourd'hui les technologies et le déploiement des technologies de traitement des eaux usées font que il y a de plus en plus d'accès à l'eau. Les pays dits tiers-mondistes, j'aime pas ce mot-là, mais bon, moins équipés que les autres, finalement, parfois font même mieux que la France, puisque quitte à partir de rien, autant avoir tout de suite et le mieux.
Et puis eux, ils ont une urgence, ça les oblige à travailler sur le sujet.
Ouais. Exactement. Donc il y a un accès qui arrive, qui est en place, mais c'est pas forcément d'ailleurs évalué. On n'arrive pas forcément à le quantifier, mais au quotidien, je rassure tout le monde, on avance dans le traitement. D'accord. Et dans le taux d'équipement des populations.
Très bien. Merci Jacques Momeux pour votre regard concret sur les solutions industrielles et environnementales qui existent déjà.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct. Ce matin, nous parlons de l'initiative Techno qui aura lieu le 19 novembre à Neuville. Une rencontre entre monde académique et industriel pour tenter de répondre à cette ressource précieuse que nous ne voudrions pas voir se tarir dans les prochaines années. Pour en parler à mes côtés, Jacques Pinget, Jacques Momeux et Alpha Dio Olori Togbé. Alors Alpha Dio, je suis ravie de vous accueillir à nouveau puisque lorsque vous étiez venu il y a 3 ans aussi, je crois bien, 3-4 ans, je sais plus bien, ça, les années passent vite. Vous étiez à la tête d'une entreprise, le Lavoir Moderne.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, ce Lavoir Moderne a évolué dans une autre. Dans une autre dimension.
Oui, tout à fait. On a poursuivi cette activité. Donc, ça fait bientôt 10 ans qu'on travaille avec mon équipe sur le domaine de l'entretien du vêtement de particuliers, qui est en matière d'impact environnemental quelque chose de tout à fait singulier, puisque la machine elle avait a réussi la performance d'être en moins de 30 ans le premier pollueur mondial en termes de microplastique. Donc on parlait tout à l'heure des micropolluants, des PFAS, etc. La machine elle avait été un gros producteur de tout ça. Et donc, de notre point de vue, la retenue à la source, pour ainsi dire, la meilleure pollution, comme on dit, est celle qu'on ne produit pas. Et donc les méthodes que nous proposons d'abord de massification de l'entretien du vêtement de particulier dans des usines et non pas à domicile sont la meilleure façon de concentrer les eaux de traitement et donc de se donner une chance de pouvoir les neutraliser du point de vue de la pression sur l'environnement. Et là on parlait tout à l'heure, Jacques parlait tout à l'heure de start-up, nous travaillons avec d'autres startups, dont notamment une qui s'appelle Treewater, et grâce à laquelle nous serons en mesure de recycler entièrement les eaux de process de notre usine, avec une technologie qui est finalement très peu coûteuse, puisqu'elle est basée sur des ultraviolets, ce qu'on appelle de l'oxydation avancée, et qui nous permet, une fois qu'on a filtré l'eau et qu'on a débarrassé des alluvions, des polluants de grande taille, d'avoir une eau grise qui est ensuite traitée par ces ultraviolets, et sachant que dans la nature, la destruction des micropolluants se fait précisément par le rayonnement ultraviolet.
Ah oui,
et
oui.
Donc la nature, c'est pas nous qui avons inventé ces technos, hein, c'est la nature qui a inventé, donc on se contente de singer la nature, simplement avec des moyens industriels, donc beaucoup plus concentrés, et donc pour répondre aussi à des taux de concentration qu'on ne retrouve pas dans la nature spontanément. La nature a très peu de sources dans lesquelles on retrouve à la fois des microplastiques, des résidus lessiviels, des PFAS et tout ce qu'on trouve dans les vêtements du particulier.
C'est ce que nous disait Jacques Pinger en début d'émission, que vous, justement, la science, c'est aussi de redécouvrir des moyens qui existent dans la nature.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'innovation fondée sur la nature ou biosourcée. Alfadio a raison de pointer cet aspect-là des choses. C'est aussi l'avantage, là pour le coup, cette oxydation avancée par ultraviolet, de détruire les micropolluants dont parle Alfadio et ne pas avoir à les déposer ailleurs, les recycler ailleurs.
Parce que
c'est compliqué, ça aussi, cette affaire.
Oui,
hein, vous pouvez enlever tous les microplastiques que vous voulez, mais si vous les avez sur les bras, vous en faites quoi? Au fond, c'est tout le problème des PFAS. Les PFAS, c'est ce qu'on appelle les polluants éternels. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les a identifiés et puis isolés? C'est une vraie question. Donc, les solutions fondées sur la nature, les solutions biosourcées sont un des aspects de développement sur lesquels on travaille. Je voudrais rebondir sur ce que disait Alfadio, parce que dans ce que Alfadio propose à travers la société Impeccable, évidemment le partenariat avec Techno, c'est un partenariat qui s'engage dans un certain nombre de registres, pas uniquement sur le traitement de l'eau avec la société Triwater, mais qui peut s'engager aussi sur d'autres composantes.
Absolument.
Je laisserai en parler Alfadio, mais y compris sur le volet numérique, y compris sur le volet logistique, y compris peut-être, je laisse Alfadio peut-être développer là-dessus, mais aussi sur des aspects d'usage et donc de sciences sociales.
Ah oui, d'accord.
Oui, tout à fait, parce que en effet, la réponse à l'utilisation massive de produits polluants proposés par des industriels ne peut être donnée que par d'autres industriels. C'est pour ça que très souvent, on met cette responsabilité sur la tête du consommateur, alors que ce que nous considérons, nous, en tant qu'industriels, c'est qu'en industriel engagé, c'est que c'est absolument pas vrai. Le consommateur ne pollue qu'avec les outils qu'on met à sa disposition. Donc, l'idée derrière ça, c'est qu'il doit y avoir effectivement un cadre réglementaire plus contraignant, d'une part, et de l'autre côté, des industriels plus volontaires pouvoir aller vers de nouvelles solutions. Et, in fine, ce qui fait basculer le particulier, c'est le fait d'avoir conçu des produits qui répondent à ses attentes. C'est-à-dire, l'écologie punitive ne fonctionne pas. Si c'est plus cher, si c'est moins pratique, ça ne marche pas. Et si je prends l'exemple d'Impeccable, de l'entreprise que je dirige, nous avons, dans notre cas de figure, travaillé pendant presque 10 ans sur un modèle dans lequel nous avions à la fois la production et la logistique intégrée. Mmh. Et ça a été d'une grande complexité à mettre en œuvre. Aujourd'hui, ce qui a changé toute l'équation nous concernant, c'est que nous sommes adossés à un géant du transport qui lui-même est engagé en direction de l'environnement, et puisque, pour les citer, Geopost est le premier acteur du transport en Europe, et a une feuille de route qui a approuvé par ce qu'on appelle le SBTI, qui est Science Based Target Initiative, qui est donc un engagement qui n'est pas du greenwashing, c'est une véritable feuille de route qui a approuvé de manière scientifique pour que d'ici à 2040, l'ensemble des transports, l'ensemble des colis transportés par Géopost soit entièrement neutre du point de vue carbone. Donc et donc derrière ça, on a cet outil de production industrielle qui lui va être capable de faire en sorte que chaque kilo de linge traité dans l'usine est zéro impact du point de vue environnemental.
C'est ça. Essayez d'avoir une chaîne vertueuse du début à la fin.
Exactement. Et donc changer l'usage qui aujourd'hui est de dire aux consommateurs, vous achetez votre machine à laver, vous achetez vos produits lessiviels et puis vous souillez de l'eau. Mais bon, la contrepartie, c'est que vous aurez du linge propre. Et très franchement, est-ce que vous avez le choix? Non. Le remplacer par un service qui dit désormais vous avez le choix de pouvoir le faire dans des conditions économiques plus attractives, dans des conditions de confort qui sont meilleures pour vous
et surtout qui préserve la planète.
Exactement. Et donc tout en améliorant votre qualité de vie, vous protégez l'environnement. Et c'est ça la véritable solution d'avenir. C'est effectivement, comme le disait Jacques, tenir compte effectivement également de la sociologie du consommateur, qui est qu'on ne fera pas aller le consommateur vers quelque chose qui dégrade sa qualité de vie ou qui dégrade son pouvoir d'achat.
C'est ça. L'important, c'est d'être dans une solution qui doit être vue dans sa globalité. Hein. Je pense qu'on n'arrivera pas à avancer si on n'est pas dans cette dynamique. Alfadio Lori-Togbé, vous présidez aussi le parc d'activités de Saint-Ouen-l'Aumône.
Tout à fait.
Qui, je crois, est engagé dans le développement durable. Vous avez donc une vue sur les zones industrielles. Est-ce qu'elles peuvent devenir exemplaires dans leur gestion de l'eau?
Alors, elles, non seulement elles le peuvent, mais elles le doivent.
Ouais.
Aujourd'hui, ce que nous avons engagé...
Est-ce qu'elles le font?
Alors, elles ne le font pas suffisamment. Oui. Elles ne le font pas suffisamment, d'abord parce que, finalement, il existe assez peu d'organisations comme celle du parc de Saint-Ouen-l'Aumône, qui est une des rares organisations en France qui soit une organisation intégrée, donc un véritable outil de gestion territoriale d'un ensemble qui, par définition, est un lieu de production de déchets à haute intensité, hein, puisqu'on a des industries, on a du transport, on a beaucoup d'activités polluantes sur ce territoire. Et donc, une des premières actions que nous avons faites avec l'équipe du parc, c'est de rationaliser la production, la gestion du déchet, puisque chaque entreprise a la liberté de contracter avec qui elle veut en termes d'acteurs, ce qui donne très souvent une grande variété d'acteurs du traitement du déchet sur un parc comme celui de Saint-Ouen-l'Aumône. Et ces acteurs du déchet ayant des niveaux d'importance différentes ont aussi des volontés de collecte différentes. Ce qui veut dire que on va se retrouver pour un certain nombre d'entreprises avec de la production de déchets en petite quantité que leur acteur sera pas capable de traiter, alors que si au contraire on massifie sur l'ensemble des acteurs du parc, on obtient un volume de déchets qui soit traitable du point de vue économique, parce qu'à nouveau la dimension économique est essentielle. On
c'est
peut
ça.
Pas juste dire aux gens non mais la bonne volonté suffira, c'est pas vrai. Il faut que la feuille Excel hein, fonctionne derrière. Et donc un des grands mouvements en avant que nous faisons sur ce parc, c'est la collecte et mutualiser des déchets et de manière générale la gestion de la source de pollution dans son ensemble, pouvoir la rendre de manière plus rationnelle
c'est
et
ça.
Plus efficace.
Au fond, faire que la performance environnementale devienne un levier d'attractivité économique.
Exactement. On a vraiment une vision au parc qui consiste à devenir non pas un éco-parc, mais en tout cas à aller dans la direction d'un certain nombre de labels environnementaux. Et j'ai bon espoir que d'ici à 2030, on y parvienne.
Merci Alfadio. Alors, un petit peu pour conclure, je vous pose la question à vous, mais je la poserai également à Jacques Pinget, Jacques Momeux. Que représente pour vous cet événement techno qui va avoir lieu le 19 novembre?
Alors, c'est un moment assez exceptionnel parce que c'est la première fois que à la fois le monde académique et le monde industriel décident de se mettre ensemble, autour d'une même table, dans un même club, avec un objectif qui est désintéressé, puisqu'il consiste à promouvoir des technologies qui seront ensuite utilisées par tous. Et l'apport de la recherche à l'industrie, il est absolument indéniable depuis toujours. Hein. En revanche, la diffusion comme ça à grande échelle de ces savoirs, il est beaucoup moins évident. Donc nous tous ensemble dans le club O, on estime nous que le mur il est à 200 mètres et que dans cette optique, il faut créer
il est urgent d'agir, il faut créer un
véritable mouvement et c'est là-dedans qu'on s'inscrit.
Et faire que donner un mouvement d'accélération peut-être dans la transition vers une industrie plus responsable.
Exactement, créer un sens de l'urgence.
Jacques Pinget, vous confirmez?
Oui,
ce sentiment.
Tout à fait, je confirme. Alfadio a raison de pointer l'idée du bien commun. On en a parlé au début de notre entretien. J'ajoute également au passage que les acteurs, le CIARP par exemple, est un acteur public hein, de l'assainissement oui. de l'eau. Donc il existe en réalité, en fait, vous avez en France, mais probablement ailleurs en Europe et dans le monde, ce qu'on appelle les concessions de services publics ou pas. Voyez, et donc le CIARP opère directement ses stations avec peut-être quelquefois des exploitants, mais ce sont des acteurs publics de la gestion de l'eau. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Alpha Dio, cette volonté hein, du bien commun, qui est également présente chez Suez et chez Veolia, bien sûr. Est fondamentale. Et donc, la diffusion des savoirs, la sensibilisation à ces enjeux, la sensibilisation à la feuille de route qui est devant nous en termes d'innovation et de progrès est importante. On en parlera le 19. Et je lis au passage qu'il peut tout à fait exister des projets avec des technologies qui donneront naissance à des concessions exclusives. Ce n'est pas interdit d'avoir des technologies issues de la recherche qui sont concédées de façon tout à fait particulière à certains exploitants s'ils le souhaitent de façon exclusive. Parce qu'évidemment, la concurrence, ça existe, y compris dans des sujets de technologies innovantes autour d'un bien commun qui s'appelle l'eau. Donc, tout ça, ce sont des choses que le monde universitaire sait très, très bien faire.
Et d'où vous, votre accompagnement voilà, au niveau de la propriété intellectuelle.
Exactement. Et avec, je ne l'ai pas dit, mais je le lis au passage, il existe... une SAT, une société d'accélération de transfert de technologies dans l'environnement du pôle universitaire d'innovation de Cergy, qui s'appelle Erganeo, dont le job est exclusivement ça, c'est-à-dire faire en sorte que ces innovations soient concédées, si nécessaire, de façon exclusive à certains exploitants.
C'est ça, Erganeo, qui est également partenaire du PUI, bien
membre fondateur, tout à fait.
Pour Cergy. Oui. Merci, Jacques Minget. Jacques Momeux, cet événement techno.
Alors, pour moi, c'est un événement incroyable, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité adhérer et faire partie des membres fondateurs au niveau du collège entreprise. Je crois très sincèrement que c'est une rencontre aussi où on va rester simple. Alors oui, l'académie était là, mes deux collègues ont bien résumé l'essence même des enjeux et des fondamentaux. Nous restons un club, donc moi je vais faire très simple. Venez nous rencontrer, échanger, adhérer. Peu importe la taille, effectivement, il peut y avoir des porteurs de projets du côté universitaire comme au niveau des TPE, des PME, du territoire ou d'autres provenances. Donc, on est à la croisée des chemins d'une belle histoire et à la genèse aussi d'une très très belle histoire dans l'innovation. Dans le progrès sociétal et environnemental.
Et surtout de la préservation d'une ressource sans laquelle l'humanité ne peut pas vivre. Hein. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Sortez vos crayons, venez adhérer à ce club, venez partager et participer à cette aventure. Voilà,
c'est très tout bien. L'inscription est disponible, enfin le lien d'inscription est disponible sur le site du Pôle universitaire d'innovation, disponible sur LinkedIn, bien sûr. Peut-être qu'il pourra être disponible sur votre site.
Oui, ça sera. Oui, on le retrouvera bien sûr sur le podcast.
Voilà, donc il y a un lien d'inscription qui est
très bien
disponible.
L'émission se termine. Juste peut-être Alpha Dio, je vous laisse le mot de la fin pour terminer cette émission. Et moi, je vous remercie en tout cas d'être venu nous sensibiliser à ce problème majeur.
Eh ben non, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler de ces sujets d'eau qui nous animent tous depuis si longtemps. Et à nouveau, aussi un point peut-être que j'aimerais à nouveau partager avec tous, c'est l'urgence de cette prise en compte de la rareté. Et de la cherté de l'eau. À nouveau, c'est un produit qu'on a totalement disponible en ouvrant son robinet.
C'est trop facile.
Exactement, c'est extraordinairement facile. Donc, sauf à habiter en Israël ou au Chili, on n'a pas conscience.
Ou dans certains pays d'Afrique, bien sûr.
Exactement.
Oui.
Mais à nouveau, les solutions, comme le disait Jacques, et les deux Jacques tout à l'heure, les solutions existent et c'est maintenant notre rôle de les mettre en œuvre.
Ben, merci à vous trois, Jacques Pinget, Jacques Maumeux, Alpha Dio, Laurie Togbé. Merci pour votre expertise, vos témoignages. On retiendra que ces premières rencontres techno du 19 novembre à la Maison internationale de la recherche de Neuville en partenariat avec CY Transfer seront donc un moment fort pour toute la filière de l'eau et de l'assainissement. Une occasion d'échanger, d'innover, surtout de bâtir ensemble des solutions durables face au changement climatique. Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci Christophe pour la technique qui nous a rejoint là entre deux. Merci à vous, chères auditrices, auditeurs, de rester fidèles à IDFM Radio, la radio de la connaissance et du lien. Prenons soin de notre planète et surtout de notre eau. Cette émission vous a plu, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera en ligne sur le site de la radio IDFM98.fr. Vendredi, nouveau rendez-vous à 9h30 avec de nouveaux invités. Belle journée et belle semaine. À vendredi. Mais surtout, ne quittez pas notre antenne. Les programmes continuent sur IDFM Radio.